Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous revenons maintenant sur l'actualité parlementaire. Cette annonce du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, le gouvernement va soumettre un amendement anti-fraude lors de l'examen du projet de loi de finances de la Sécu. Il est en cours à l'Assemblée nationale. Le gouvernement pourrait d'ailleurs dégainer le 49-3, on l'apprend ce soir. On vous tient bien évidemment informé. Revenons à cet amendement anti-fraude sociale. Il propose d'arrêter le versement d'allocations sociales vers des comptes bancaires non français et non européens. Ça ne concerne pas les retraites et surtout, ça n'est pas une idée nouvelle. Elle avait été suggérée il y a 2 ans par la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, êtes-vous satisfaite de cette annonce du gouvernement ? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir été enfin entendue ?
Oui, enfin, c'est un petit pas, hein. c'est pas non plus une mesure révolutionnaire, mais c'est quand même une mesure de très bon sens qu'on a proposé, enfin que j'avais proposé il y a déjà plus de 3 ans en réalité, enfin donc 3 PLFSS de suite, plus un rapport remis à Édouard Philippe, etc., etc. Donc en fait c'est assez logique parce que si vous voulez, il y a un certain nombre de prestations sociales qui sont liées à une domiciliation en France, à une condition de résidence. C'est complètement anormal qu'on puisse les verser sur un compte à l'étranger. Voilà. Donc, c'est qu'une mesure logique. C'est pas révolutionnaire.
Hein. Mais alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne comprennent pas en quoi ça consiste. Est-ce que vous avez un cas concret ? Je rappelle, et vous l'avez rappelé d'ailleurs, que vous êtes l'auteur d'un rapport consacré à la fraude sociale. C'était effectivement en 2019, Nathalie Goulet.
Exactement. Oui, mais c'est très simple. Vous, comme tout est dématérialisé, vous avez des demandes de prestations qui sont attribuées à une famille X ou Y. Au lieu de verser ça sur un compte en France, c'est versé sur... Alors, il y avait un réseau Tracfin, qui est la cellule de renseignement financier, avait identifié un réseau roumain, puis un autre réseau en Ukraine. À partir du moment où il y a un compte bancaire qui est donné aux organismes sociaux, il n'y avait aucune espèce de condition que ce compte soit en France. Donc, ça pose, ou en Europe, puisque c'est la réglementation européenne, ça pose plusieurs problème. Un, sur l'identité exacte du bénéficiaire. En plus, le fait que ce soit à l'étranger alors qu'il y a une condition de résidence en France, ça prouve qu'il n'y a aucun usage à destination du bénéficiaire puisque l'argent est à l'étranger. Donc cet argent qui est versé à l'étranger est en général retiré en espèces et sert à tout, au blanchiment, au financement du terrorisme, à la fraude, ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Parce que quand vous avez une prestation sociale, en principe, c'est pour un bénéficiaire qui en a besoin. Bon. Donc, comme il y a une condition de résidence en France, ça doit être versé en France ou dans un pays.
Et on pense à quel type d'allocation typiquement, principalement ?
Ça peut être des allocations familiales, ça peut être des prestations liées à l'APL ou à tout un tas de...
Chômage, oui.
Oui, voilà. Et donc, vous avez même une banque qui s'appelle N26, qui est une banque allemande, qui émet des IBAN marqués FR, comme si c'était un compte français. Donc, si vous voulez, c'est bien que les services se réveillent. Enfin, ça ne révolutionne pas non plus la lutte contre la fraude. Hein. C'est
voilà.
Une mesure logique, archi-logique.
D'autant que si l'on empêche ces versements vers des comptes hors zone, CEPA, ouais. C'est-à-dire hors de France, hors de l'Union ouais. européenne, on renforce les contrôles, on ne résorbe pas la fraude.
Ah ben, ça va être très très bien, parce qu'en fait, ce qui devrait se passer, si tout va bien, c'est qu'on va suspendre le versement à tous les gens qui se faisaient verser de l'argent à l'étranger, sur ces prestations-là. Ça veut dire que s'ils ne se réveillent pas, et s'ils ne réclament pas, ça veut dire qu'on était dans des filières de fraude. Parce que si vous voulez, il faut aussi bien comprendre que ce genre de fraude est une fraude en réseau, c'est pas une fraude de pauvres, c'est pas une indignation de droite, c'est un pillage de nos systèmes. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'on verse 750 milliards de prestations sociales par an. Donc si on contrôle un peu le robinet, c'est pas très grave.
Alors, c'est une anomalie qui dure depuis des années, en fait.
Depuis toujours.
Et comment, à combien on évalue l'ampleur de cette fraude ? Le gouvernement ne donne aucun chiffre
en
se cachant derrière. Vous savez, le poncif, par définition, une fraude, on ne peut pas l'évaluer.
Oui, mais si vous voulez, je suis pas sûre sur cette mesure particulière que le montant soit important. Mais on rentre dans une logique qui me semble, moi, beaucoup plus intéressante, qui est une logique d'adéquation entre la réalité de la prestation et l'existence du bénéficiaire. J'ai vu que le ministre avait exclu les prestations de retraite, mais je pense que là, il va falloir aussi contrôler notamment l'existence des retraités. Et ça, c'est aussi très important, parce que quand ça passe par un compte français ou européen, surtout français en tous les cas, ça bénéficie de la loi Eckert. Vous savez que votre banque vous demande chaque année une preuve de votre existence de vie. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudra étendre aux prestations de retraite, mais pour l'instant, c'est un petit pas logique qui va dans le bon sens.
Voilà, car vous l'avez rappelé, hein, le gouvernement ne veut pas toucher aux retraites. Il y aurait 2 600 000 personnes nées à l'étranger qui percevraient des retraites actuellement.
Il y a aussi des Français qui vivent à l'étranger.
Et sur les étrangers, il y en a qui sont nés à l'étranger et qui passent aussi leurs derniers jours à l'étranger. Là aussi, il y a des cas de fraude ?
Oui, ben bien sûr, parce qu'il n'y a pas on vérifie pas l'existence, la preuve de leur existence, si vous voulez. Vous
donc avez des gens qui sont décédés depuis très longtemps, dont on n'a pas le certificat de décès, voilà. Dont le décès n'a pas été déclaré. Voilà.
Voilà, puisqu'il n'y a pas de lien avec nos consulats, etc. Et puis, quand par hasard on découvre que l'un ou l'autre est mort, arrive une veuve et pleurer pour une pension de réversion. Mais le cas des étrangers qui touchent leur retraite à l'étranger. C'est pas le sujet, mais parce que vous avez aussi des Français qui vivent à l'étranger et qui perçoivent leur retraite. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut pas voir ça en termes de d'étrangers ou de pas étrangers. Le problème des étrangers, il est différent. Il est aussi lié au fait que nos caisses de sécurité sociale ne sont pas reliées au fichier des étrangers en France. Et que donc, vous n'avez pas de lien entre un séjour régulier en France et les prestations qui vont bien avec. Vous n'avez pas, par exemple, de lien avec un étudiant Erasmus qui va rester 3 ans en France. Quand il a fini son Erasmus, il n'y a rien qui désactive sa carte vitale. Vous voyez ? Donc on a un tas de choses à régler avant. Et la mesure, l'amendement qui va être voté, peut-être étendu, va vraiment dans le bon sens. Mais c'est une mesure d'une logique implacable. Et c'est très très bien que le gouvernement se réveille. Enfin, il n'y a pas de quoi non plus révolutionner.
La sénatrice centriste Nathalie Goulet est notre invitée ce soir sur Europe 1. Vous avez évoqué la fraude à la carte vitale. Cet été, le Sénat, sur proposition du Parti des Républicains, a fait adopter l'instauration de la carte vitale biométrique. Est-ce que là, avec ce nouvel amendement annoncé par le ministre des Comptes publics, on renforce sérieusement notre arsenal contre la fraude sociale ?
Non, parce que si vous voulez, le problème de la carte vitale biométrique, c'est qu'il va. Alors, c'est bien parce que ça va. Enfin, ça ne se fera pas, je vous rassure.
C'est beaucoup trop lourd à mettre en place, c'est ça ?
D'abord, c'est lourd et c'est cher. Et ensuite, si vous voulez, ce qu'il faut d'abord, c'est sécuriser nos fichiers. Tant que nos fichiers ne sont pas sécurisés et qu'on ne sait pas qui y a dedans, s'il y a des morts, des vivants, des gens qui ne doivent pas y être, des gens en situation irrégulière, qui bénéficient d'autres régimes, mais pas du régime général, tant qu'on n'aura pas fait le ménage dans les fichiers, ça ne sert à rien de mettre en place d'autres dispositifs très lourds, qui sont des dispositifs très attentatoires. Parce que, de toute façon, ni les médecins ni les pharmaciens vont vérifier les empreintes digitales. Ça, il faut oublier, ils vérifient déjà pas les photos. Ils sont pas là pour ça, c'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes. Donc, vous avez même un référé de la Cour des comptes du mois de mars l'année dernière qui somme le gouvernement de faire le point et de faire le ménage dans nos fichiers. Tant qu'on n'aura pas éclairci, clarifié la base des bénéficiaires, c'est pas la peine de mettre en place d'autres mesures.
Nous sommes avec la sénatrice centriste Nathalie Goulet. On marque une courte pause et on revient sur Europe 1 tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Elle a rendu un rapport il y a 3 ans sur les différentes formes de fraude sociale. Elle est avec nous ce soir car Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a annoncé le dépôt d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Cet amendement vise à arrêter le versement d'allocations vers des comptes bancaires non français et non européen. Nathalie Goulet, j'ai une question beaucoup plus politique à vous poser. Cette proposition du gouvernement intervient-elle de façon opportune à l'heure où le débat sur l'immigration, hélas, revient avec ce drame épouvantable, le meurtre de la jeune Lola, et avant un débat consacré à l'immigration au Parlement au mois de novembre?
Écoutez, franchement, ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. D'abord, le PLFSS, il est prévu depuis longtemps, c'est l'époque, c'est la saison, c'est normal, et c'est normal que le gouvernement propose un peu de mesures anti-fraude, parce que l'année dernière, il n'en a pas proposé beaucoup, et que les comptes sont dans le rouge. Donc, non, la réponse pour moi est non, je ne suis pas un soutien inconditionnel du gouvernement, mais pour moi, la réponse est absolument non. C'est vraiment la saison des amendements anti-fraude, parce que c'est le projet de loi de finances de sécurité sociale, et que le gouvernement a en plus un référé de la Cour des comptes, je me suis trompée tout à l'heure, jeudi mars, mais c'est du 9 février 2022, qui somme notamment de vérifier et de faire des rapprochements des comptes bancaires. Donc non, moi je n'y crois pas du tout, pas une seconde, ce serait vraiment tout à fait...
Si je vous pose la question, c'est parce que le service politique d'Europe 1 rapporte quelques rumeurs allant dans ce sens.
Oui, enfin, je veux dire, ce qui est arrivé à cette pauvre petite fille n'a rien à voir avec le timing du PLFSS dont c'est la saison.
La question de l'immigration, hein, évidemment.
Oui, mais là, c'est même pas de l'immigration.
Parce que le gouvernement est très critiqué dans l'opinion publique aussi. Hein, il a du mal à convaincre sur ces thèmes-là, hein, Nathalie Goulet.
Non, mais ça, je comprends qu'il ait du mal à. Je comprends qu'il ait du mal, mais si vous voulez, la fraude sociale, c'est pas forcément une fraude liée à l'immigration. La fraude sociale, c'est lié à tout un système et notamment un pillage de nos comptes par des réseaux. Bon, donc si vous liez la fraude sociale à l'immigration, vous allez retomber sur la stigmatisation et puis le fait que ce soit une indignation de droite alors que la fraude fiscale serait une indignation de gauche. Moi, je me pose tout à fait à cette discussion.
La fraude sociale.
Non, mais je ne suis pas seulement centriste et normande, mais je dis simplement que ce n'est pas le cas, c'est un pillage de nos finances publiques. Et qu'en plus, c'est un pillage qui se fait par des réseaux organisés, notamment vers l'étranger. Le fait qu'on verse des prestations sur des comptes à l'étranger ne garantit pas que ces prestations aillent aux personnes à qui elles doivent revenir.
Alors, une fois qu'on aura adopté, donc, qu'on aura mis fin à ces versements vers des comptes hors zone...
Petite bricole.
Petite bricole parce que quoi ? Des fraudeurs vont trouver d'autres subterfuges pour contourner la règle ?
Il y a des dizaines de fraudes, des fraudes à l'identité, des fraudes au domicile, etc. Enfin, la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat l'année dernière à la suite d'une proposition que j'avais déposée comporte par exemple 14 mesures à prendre immédiatement. Le rapport de la Cour des comptes de 2020 alerte et demande des dispositions sur au moins 5 ou 6 sujets. Les caisses savent très bien ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. Donc on reviendra à la charge.
Merci beaucoup, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, sénatrice UDI. Pour aller plus loin sur le sujet de la lutte contre la fraude sociale, je vous renvoie, chers auditeurs, à l'entretien entre Romain Desarbres et Charles Prats, qui est d'ailleurs lui aussi membre de l'UDI. C'était à la mi-journée sur Europe 1. On change de sujet maintenant. On reste un peu dans la politique, mais on change de pays. C'était à la une du journal d'Hélène Zellani, Truss enlisé dans les polémiques, les mauvais choix politiques, a annoncé sa démission du poste de Premier ministre au Royaume-Uni. C'est un hello goodbye. L'aventure à Downing Street aura duré 6 semaines, 44 jours. Nous en parlons maintenant avec le professeur des universités Aurélien Antoine, spécialiste des institutions britanniques, auteur de Brexit, une histoire anglaise chez Dalloz ou encore du droit constitutionnel britannique aux éditions LGDJ. Bonsoir Aurélien Antoine.
Bonsoir.
Le Daily Star proclame ce soir la victoire de la laitue sur la première ministre britannique. Moquerie très anglaise, tabloïdesque, si vous me permettez l'expression. Ces 44 jours à Downing Street ont été un chemin de croix pour Liz Truss.
Un véritable chemin de croix qui avait fort mal commencé avec le décès de la reine qui a suspendu en fait tout son programme politique, puis la divulgation d'un programme économique à contre-courant et surtout contradictoire en ces termes qui ont fait réagir les marchés, et puis une accélération hier qui ont montré que à une certaine incompétence économique s'ajoutait une certaine forme de négligence politique qui a précipité sa chute.
Alors, il y a effectivement ce renoncement au mini-budget que vous évoquiez, ces avantages fiscaux aux plus riches, le projet Singapour sur Tamise, ces baisses d'impôts non financées qui ont fait paniquer les marchés, sur lesquels elle a été obligée de revenir, de s'excuser, ces deux démissions également en une semaine aux finances et à l'intérieur, mais aussi ces événements à la Chambre hier, un vote de confiance décidé par les conservateurs sur la fracturation hydraulique, des pressions ont été exercées pour qu'ils votent tous oui, et c'est très mal passé, hein.
Oui, c'est très mal passé au point que le président de la Chambre des communes, le speaker, a appelé à ce qu'il y ait une enquête sur la façon dont ont été traités certains députés. Il faut savoir que, au Royaume-Uni, le Parlement est une institution clé, vis-à-vis de laquelle il faut être extrêmement respectueuse. Tous les débats qu'on va voir d'ailleurs, au sein du Parti conservateur pour désigner un nouveau leader, ça se passe d'abord au Parlement, même si c'est le parti qui va conservateur qui va intervenir. Donc c'est évidemment des pratiques absolument presque hors d'âge et qui sont assez inédites ces derniers temps, même si souvent il y a pas mal d'actions à la Chambre des communes, comme dans d'autres assemblées d'ailleurs.
Les conservateurs ont-ils eu la peau de Liz Truss?
Ben, si vous voulez, je ne sais pas s'ils ont eu la peau de Liz Truss. En tout cas, ils ont la capacité à se faire des erreurs de casting qui est assez flagrante maintenant. C'est eux qui l'ont choisi. La responsabilité, elle revient aux conservateurs d'abord. Certes, Liz Truss n'était peut-être pas taillée pour le poste, dans des conditions qui sont, on le sait, défavorables pour tout gouvernement à l'heure actuelle, mais c'est bien les conservateurs qui ont accepté de désigner quelqu'un qui, faut-il le rappeler, était loin d'être favorite au début de la campagne au mois de juillet.
Elle a fait beaucoup d'erreurs durant ces 44 jours. Sa personnalité a été mise en cause. Elle n'a jamais réussi à s'imposer comme un leader de la sixième ou cinquième puissance mondiale. Ça dépend des classements.
Ben, ça, tout vient de ce que je viens d'évoquer. Au début, elle n'était pas favorite. Elle n'avait pas, quand on regarde les premiers votes, hein, elle n'était pas dans le peloton de tête des membres du parti. Et puis, elle a su habilement rallier certains candidats ou candidates à son panache, tenir un discours qui plaisait à la base des militants conservateurs qui ne sont pas représentatifs de grand-chose à l'échelle du Royaume-Uni. Donc, elle est arrivée en poste avec un record déjà d'impopularité parmi la population et très rapidement, beaucoup de députés conservateurs avaient des doutes sur ses capacités.
Voilà, un sondage publié ce soir place Liz Truss pour 47% de Britanniques comme la pire première ministre de l'histoire du pays. On ne lui aura pas vraiment laissé sa chance.
On lui a pas vraiment laissé sa chance, mais si vous voulez, le problème c'est qu'elle ajoutait des difficultés à des difficultés préexistante, très structurelle au Royaume-Uni, aggravée par les crises successives, le Brexit, la Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine avec la crise énergétique qui en résulte. Et puis elle a effectivement pris cette décision sans doute voulant faire un choc violent par des réformes majeures au point qu'on appelle un mini-budget, alors que c'était même pas un budget, c'était des réformes purement fiscales. Et elle est allée à contre-courant, y compris des politiques que soutenait le FMI. Et ça, effectivement, la réputation du pays a encore périclité à la suite de ces décisions.
Nous sommes avec le professeur des universités, spécialiste des institutions britanniques, Aurélien Antoine. Professeur, que va-t-il se passer maintenant? On sent que les Tories sont légèrement gênés aux entournures. Ils organisent une mini-primaire, pas plus de trois candidats. Ça va se passer de façon express. Le candidat sera désigné dès la semaine prochaine, hein. Faut faire vite.
Oui, a priori oui. Lundi, on va essayer d'aller très très vite pour que les parlementaires donc se prononcent dans un premier temps pour soutenir les finalistes, et ensuite il y aura un vote par correspondance à Internet, et qui devra être évidemment quand même sécurisé. Et l'ancienne première ministre Theresa May a quand même appelé à une espèce d'unité pour que peut-être, pour apaiser les choses, une seule candidature émerge, en mettant en accord les différents opposants de la précédente du précédent combat électoral de cet été. Et c'est ce qu'il y a le mieux à souhaiter, mais il faut qu'il le fasse. S'il y a encore un combat des oppositions et que au moins en apparence les fractures, parce qu'elles sont profondes en réalité, ne sont pas un peu dissimulées, ça va être un long chemin de croix jusqu'aux prochaines élections qui pour l'instant sont prévues en janvier 2025.
Alors, un nom émerge déjà à l'annonce de cette primaire express la semaine prochaine, celui de Boris Johnson, le prédécesseur de Liz Truss. Est-ce que c'est crédible? Pourquoi le nom de Boris Johnson émerge dès aujourd'hui, Aurélien Antoine?
Alors, parce que il y a deux raisons pour ceux qui le soutiennent au Parti conservateur. Alors, d'un point de vue personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et je pense que ça serait un énorme risque assez inédit. Mais les deux motifs qui sont invoqués, c'est que d'abord, il est le seul dirigeant conservateur à avoir été élu. pour sur un programme pour devenir Premier ministre. C'était donc en 2019. Donc certains reconnaissent son mandat démocratique. L'autre raison, c'est qu'il a dû partir du 10 Downing Street pour des violations répétées du droit, mais son programme en tant que tel, à l'origine tel qu'il était envisagé, suscitait un peu plus d'adhésion de l'ensemble des conservateurs. Donc c'est pour ça que son nom revient. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
Alors, je parlais de ce sondage qui établissait le classement des pires premiers ministres selon les Britanniques du Royaume-Uni. En première position, Liz Truss, démissionnaire aujourd'hui. En deuxième, c'est justement Boris Johnson. Si les conservateurs le désignent, comment va le percevoir la population britannique, selon vous, Aurélien Antoine ?
Bah, très mal, parce que entre quelqu'un qui a eu une équipe, parce que ce n'est pas que le cas de Liz Truss, faut pas trop charger la barque. Pour moi, les conservateurs sont perclus de fractures qui ont été accentuées, alors en particulier par le Brexit, mais pas seulement. Aujourd'hui, le pays, un pays démocratique doit connaître aussi des alternances. Je pense qu'il y a une usure véritablement du pouvoir chez les conservateurs. L'ensemble des députés qui ont été élus en 2019, qui ont soutenu Boris Johnson dans son programme Get Brexit Done, hein, pour dire les choses, n'étaient pas forcément non plus très très compétents au-delà d'un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, on a un problème de compétence pour Liz Truss, et pour Boris Johnson, on a une atteinte claire à des principes pour lesquels, vis-à-vis desquels les conservateurs étaient très attachés. Le respect du droit, la prééminence du droit est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça que je pense qu'en termes de stratégie politique, ce serait un peu aussi catastrophique d'en revenir à Boris Johnson. Donc je pense que ça fait un peu le buzz ce soir, mais j'espère qu'ils sauront raison garder et essayer de trouver plutôt un choix plus consensuel.
Le professeur des universités Aurélien Antoine est notre invité ce soir. Nous évoquons cette actualité au Royaume-Uni, la démission au bout de 44 jours de Liz Truss. Si ça n'est pas Boris Johnson, Aurélien Antoine, qui ce serait ?
Alors on peut trouver, il y a deux possibilités, hein, s'en remettre assez rapidement à celui qui est arrivé second, à Rishi Sunak, qui avait fait des choix dans son programme budgétaire à l'époque, je le disais,
qui est donc le finaliste de la dernière
plus
primaire.
Rationnel, hein. Oui. Voilà, face à Liz Truss, alors qu'il a fait quelques maladresses, qui lui aussi n'a pas été très respectueux du droit pendant les périodes de confinement, parce qu'il a reçu aussi une amende, tout comme Boris Johnson, pour la violation des règles de confinement dans les fêtes à Downing Street. Mais il avait un programme budgétaire qui était beaucoup plus sérieux. C'est si vrai que Liz Truss, dans un dernier effort de sauver sa place, a appelé exclusivement des soutiens, que ce soit Jeremy Hunt ou encore le nouveau ministre de l'Intérieur, qui soutenait le programme de Rishi Sunak. Après, peut-être qu'il peut être considéré comme trop clivant et une personnalité plus de synthèse pour émerger. Mais la difficulté, c'est que on n'arrive pas à les trouver vraiment au Royaume-Uni. Penny Mordaunt, qui a été membre du gouvernement, est aussi très clivante. Je ne parle même pas de Suella Braverman, qui a démissionné, l'ancienne ministre de l'Intérieur, qui a eu des propos absolument infects vis-à-vis des immigrés. Donc, si vous voulez, on est dans des postures très, très marquées, et ceux qui sont un peu plus posés apparaissent quand même plus comme des outsiders. Et Jeremy Hunt, qui est plus pondéré, a expliqué qu'il ne se présenterait pas pour l'instant à la tête du Parti conservateur. Mais on peut les comprendre aussi, hein. C'est un peu suicidaire,
voilà,
les temps qui courent.
La ministre de l'Intérieur démissionnaire qui a évoqué, vous parliez de propos abjects sur l'immigration, avoir rêvé une nuit d'avions remplis de migrants repartant vers le Rwanda notamment. Une dernière question, Aurélien Antoine, sur l'opposition travailliste. Est-ce qu'elle a une carte à jouer ? Peut-elle provoquer des élections anticipées ? Les sondages donnent le Labour avec 30 points d'avance sur les conservateurs. Que peut faire le leader travailliste Keir Starmer ?
Ben, il ne peut pas faire bien plus qu'il ne fait déjà. Il a été plutôt excellent aux questions au gouvernement hier. Il a vraiment poussé Liz Truss dans ses retranchements, qui s'est plutôt mal défendu en continuant d'opposer la population entre les grévistes et puis les gens qui travaillent, alors que ce n'est pas le cas de la France. Il faut savoir que pour faire grève au Royaume-Uni, c'est très compliqué. Et que s'ils viennent à exercer leur droit syndical, c'est qu'il y a vraiment de très très gros problèmes. Et il n'y a pas les mêmes amortisseurs sociaux. Donc cette opposition là-dessus, Keir Starmer a plutôt bien réagi. Il y a un vrai programme qui, en étant tout à fait objectif, paraît beaucoup plus consensuel et aussi beaucoup moins stigmatisant ou fracturant que le programme de Liz Truss. Le problème, c'est qu'il n'a pas de majorité. Donc, il faudrait éventuellement une espèce de motion de censure ou de la mise en minorité du gouvernement sur des textes qu'il juge importants pour tomber dans une dissolution ou tout simplement un dirigeant conservateur qui serait très très soucieux de l'intérêt général, qui dit bon, on n'est plus en capacité de gouverner, je demande au monarque de dissoudre. En fait, c'est le Premier ministre qui décide, et puis on retourne devant les électeurs. Mais institutionnellement, en réalité, ce serait peut-être ça le plus démocratique et le plus satisfaisant.
Dans un climat social tendu, vous l'avez rappelé. Merci beaucoup Aurélien Antoine, spécialiste des institutions britanniques, professeur des universités, auteur notamment de Brexit, une histoire anglaise chez Dalloz. Dans quelques instants, dans Europe Soir, nous allons parler de notre sommeil. Et oui, il faut respecter 7 heures de sommeil passé 50 ans. C'est une question de santé. Nous en parlerons dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1. Europe Soir a un œil sur l'actualité. Elisabeth Borne est en train de prononcer un discours à l'Assemblée nationale. Elle pourrait activer pour la deuxième fois en 2 jours l'article 49.3 de la Constitution, cette fois-ci sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Nous vous tenons bien évidemment informés. Nous parlons maintenant de cette étude de l'INSERM, établissant un lien entre le développement de maladies chroniques et le manque de sommeil après 50 ans. Il faut dormir 7 heures minimum. Nous en parlons avec le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialisée dans les troubles du sommeil et présidente du réseau Morphée. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Alors expliquez-nous pourquoi plus on vieillit, plus il faut faire attention à combien de temps nous dormons. 7 heures, c'est impératif en fait.
Bon, en fait, ce que montre l'étude et qui avait été aussi montré antérieurement, c'est que chez les gens qui dorment très peu, et notamment à 50 ans, quand on dort moins de 5 heures par nuit, on a beaucoup plus de risques de développer des polypathologies du style cardiovasculaire, métabolique, avec un diabète, hypertension, et puis même des cancers, que si on dort 7-8 heures par nuit. Après, avec l'âge, on dort un petit peu moins, et dans le 70-80 ans, mais néanmoins, on voit que dormir très peu a quand même des inconvénients. Et ce qui est intéressant, c'est que dormir trop 9 heures et plus est aussi un problème. C'est-à-dire qu'il y a une tranche horaire où c'est le sommeil idéal, disons, il se situe entre 7 et 8 heures.
Alors, que se passe-t-il en fait pendant notre sommeil, d'un point de vue physique ?
Bah, le sommeil, c'est totalement vital parce que c'est pendant le sommeil qu'on va finalement faire toutes les travaux de maintenance, si je puis dire, du corps et du cerveau. Donc, on va tout nettoyer au niveau des neurones, au niveau des cellules qui sont mortes. On va construire, on va régénérer de l'énergie et on va refaire aussi des cellules qui vont nous permettre de nous défendre contre les agressions, que ce soit des cancers ou que ce soit des infections. Et sur le plan cardiovasculaire, on va pouvoir réguler la fréquence cardiaque qui fait que le cœur récupère en quelque sorte quand on dort. Et sur le plan aussi de l'humeur, c'est excellent parce que si on fait une bonne nuit, on est de meilleure humeur, de meilleure forme et on va avoir plus d'énergie.
Alors, mais ce qui se passe le jour a parfois aussi des répercussions la nuit. Pourquoi parfois on ne trouve pas le sommeil ?
On ne trouve pas le sommeil pour différentes raisons. Il y a beaucoup, enfin, la principale cause d'insomnie, c'est quand même tout ce qui est du registre émotionnel. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise nouvelle, une séparation, un divorce, vous êtes licencié, tout ça, ça va être éventuellement générateur d'insomnie et ça peut durer s'il y a un état qui s'installe. Après, vous avez des maladies physiques, hein, vous pouvez avoir des douleurs notamment. Si vous avez mal, vous ne dormez pas. Si vous toussez toute la nuit également, hein, pendant le Covid, on a vu des gens qui étaient très gênés par cet aspect-là. Donc, y a différentes causes et quand on s'attaque, si je puis dire, à l'insomnie, c'est tout un questionnaire qui est assez long et d'investigation pour arriver à comprendre d'où vient ce trouble du sommeil.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le risque à trop dormir. Que se passe-t-il quand on excède 8 heures de sommeil, si j'ai bien compris ce que vous dites, docteur Sylvie Royan-Parola ?
Alors, c'est plutôt 9 heures, mais bon, quand on dort trop...
Excès de 8 heures, voilà, oui.
En fait, il faut bien comprendre que ce sont des études épidémiologiques. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est uniquement le déclaratif des gens. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ils dorment plus longtemps. Et on ne sait rien de leur qualité de sommeil. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique va se rester plus souvent au lit et dormir plus longtemps. Pour autant, ça ne va pas être nécessairement un sommeil reposant. Donc, c'est difficile de savoir quelle est la part qui est dans cet allongement du temps de sommeil qui est liée à une maladie associée. Et du coup, bien évidemment, à ce moment-là, c'est pas une bonne chose. Si on dort longtemps, ça veut dire indirectement qu'on a peut-être une maladie derrière.
Alors, Séverine Sabia, chercheuse à l'INSERM et première auteure de cette étude publiée hier, soutient qu'il faut renforcer la promotion d'une bonne hygiène du sommeil des populations. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire deux choses principalement. C'est déjà qu'il faut bannir tout ce qui va perturber le sommeil, que ce soit le café à haute dose, que ce soit les écrans juste avant le coucher ou encore pendant la nuit. Ça va être aussi de ne pas faire une coupure le soir pour arriver à aborder la nuit un peu plus tranquillement. Notamment, si vous voulez, toutes les techniques de relaxation pratiquées le soir sont intéressantes pour essayer de favoriser l'endormissement. Mais il va falloir aussi s'occuper de la journée, c'est-à-dire qu'on va dormir mieux quand on va passer plus de temps en extérieur, à la lumière du jour, et qu'on va faire du sport, ou une activité physique en tout cas soutenue. Donc toute chose qu'en ville, on a un petit peu de mal à faire.
Alors, vous avez évoqué évidemment le phénomène de notre époque, l'omniprésence des écrans, docteur Sylvie Royan-Parola, c'est notre pire ennemi en fait.
Alors, je ne dirais pas ça complètement.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, qui sommes de moins de 50 ans, vont avoir 50 ans un jour, et ont pris l'habitude de consulter leur téléphone portable, leur tablette avant de dormir.
Oui, alors ça, c'est un comportement qu'il faut bannir, parce que juste avant d'aller se coucher, on va en fait complètement réactiver tous les systèmes d'éveil. Empêcher la mélatonine de faire son travail, puisqu'elle devrait normalement être sécrétée à ce moment-là. Donc, on la bloque. Donc, évidemment, ça va favoriser à la fois des problèmes d'endormissement et des problèmes de maintien de sommeil. Mais ceci étant, les écrans bien utilisés sont des écrans qui sont tout à fait... Enfin, qui apportent aussi quelque chose d'intéressant pour l'homme. Et paradoxalement, d'ailleurs, il y a plein d'applications ou de systèmes qui permettent, qui sont des aides à l'endormissement, notamment avec... des applications soit apportent de la musique, soit de la relaxation. Bon, sans vouloir faire de la pub, parce que de toute manière, c'est pas le problème du paiement. Il y a Petit Bambou qui est maintenant reconnu universellement comme une application intéressante.
Merci
Donc
beaucoup,
on se sert de son portable.
Sylvie Royan-Parola. Je rappelle que vous êtes spécialiste des troubles du sommeil et présidente du réseau Morphée. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Okay. Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Depuis 150 ans, chez Seido Développement.